Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Panique. Ce soir, on accueille le Jim qui vient nous présenter la thématique de ce mois-ci. Alors, le mois passé, vous nous aviez présenté les luttes dans le monde. Et ce mois-ci, ce sera hors la loi. Alors, ce soir, dans le studio avec moi, il y a Sarah et Léon de Panique. Bonsoir. Et du côté du Jim, nous avons Chris et Gérard.
Bonsoir.
Gérard qui est en train d'écrire un des articles qui sera publié sur le site du Jim.
Oui, tout à fait.
Et voilà, alors je propose que déjà vous nous expliquiez pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème.
Ok, donc en fait on a choisi ce thème de hors-la-loi un peu en écho à notre premier numéro qui lui évoquait la répression que subissaient de nombreux militants de par le monde, en Belgique, etc. Et donc on s'est dit oui, mais on va un peu choisir aussi, on va un peu évoquer ces militants qui ont choisi volontairement ou non, c'est aussi un débat, de se mettre hors-la-loi, donc hors de la légalité en fait, de faire des actions illégales. Ça semble comme ça tout de suite un peu choquant. On a tout de suite des images dans la tête qui évoquent la violence ou quelque chose comme ça, mais quelquefois il suffit de faire très peu. Ça passe aussi par la désobéissance civile, des actions pacifiques de refus, de protestation, des actions plus ludiques, quelquefois aussi la violence, la lutte qui n'est pas nécessairement choisie mais qui peut être vue comme une contrainte. On est obligé de répondre quelquefois par une certaine violence. Donc tous ces militants, toutes ces organisations, tous ces groupes, etc., on n'a pas voulu leur rendre hommage, mais en tout cas leur donner un peu un écho, une visibilité en se disant, mais ça n'est pas la loi qui détermine les choix militants, c'est la légitimité des actions, et après ça on regarde un petit peu comment tout ça peut s'articuler.
Mais hors la loi, c'est assez vaste, non, comme terme. On pense, bon, c'est un petit peu cliché, mais on pense un peu à Robin des Bois, on pense au western, mais c'est quoi aujourd'hui être hors la loi? Je ne sais pas si vous avez déjà un premier exemple à nous donner.
Eh bien, prenons Robin des Bois. Il y a une association en France qui rouvre les compteurs d'électricité qui s'appelle Robin des Bois, justement. Ça n'est pas légal. Donc, pourtant, ils rouvrent les compteurs de personnes qui sont dans le besoin parce qu'on leur a fourni une facture d'électricité beaucoup trop chère, par exemple. Est-ce que c'est normal de payer l'électricité trop chère quand on n'a pas beaucoup de revenus? Et donc ces personnes-là ont décidé de rouvrir illégalement, de faire sauter les scellés en fait, des compteurs électriques pour les réapprovisionner en électricité à l'insu d'EDF, par exemple. Donc ça, c'est un premier exemple. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple de hors-la-loi? On en traite via un article sur les semenciers. Ça, c'est l'industrie agroalimentaire, si on veut, qui impose aux agriculteurs
d'acheter les semences.
D'acheter les semences qu'ils retirent de leur récolte. Donc quand on plante du blé, il y a du blé qui pousse, on en retire les grains. Les paysans ne peuvent pas, les agriculteurs, les fermiers, ne peuvent pas les utiliser librement, en fait. En quelque sorte, des sociétés comme Monsanto leur demandent des droits d'auteur, si on veut. Eh bien, ces personnes-là sont hors la loi, sans le savoir, ou en le sachant quelquefois pertinemment.
Ce sont donc les semenciers qui les mettent dans la position de hors la loi. Ce n'est pas un choix.
Mais il y a effectivement le problème, effectivement, là, et donc on parlait des Robin des Bois et des semenciers, où effectivement il y a deux attitudes qui sont différentes. D'une part, de certains groupes qui font eux-mêmes le choix, effectivement, de rompre, on va dire, le cadre légal. Mais effectivement, dans le cadre des semenciers, c'est quelque chose. Bon, à partir du moment, effectivement, où la législation est mise en place, un certain nombre le savent et, par acte militant, continuent de le faire. C'est-à-dire que, pertinemment, ils poursuivent quelque chose qui était légal avant et qui est devenu illégal. Mais donc, le problème aussi, je pense, et tu parlais du fait que le thème était assez vaste ou vague, c'est que de plus en plus, on constate aussi une criminalisation de toute une série de choses, et que la frontière entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis devient de plus en plus floue. Par exemple, on a vu lors des récentes manifestations au No Border, des gens qui étaient arrêtés en rue préventivement, alors que fondamentalement ils n'avaient rien fait.
Et ils étaient dans la loi, alors dans la légalité, c'est paradoxal.
C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on en est à un stade où maintenant la loi enfin, la loi existe, mais l'interprétation de la loi est très vaste. Ou disons que les possibilités données à l'exécutif, donc à la police, par exemple, deviennent quasiment arbitraires, dans le sens où ils peuvent décider de restreindre, par exemple, le droit de manifester ou le rassemblement de personnes qui veulent manifester, donc la liberté d'expression, finalement.
Mais est-ce qu'alors, justement, est-ce qu'on n'est pas un peu considéré comme hors la loi pour un oui, pour un non, dans une société où on n'a plus le droit de faire grand-chose, peut-être ?
Pour ma part, je pense surtout que c'est le nombre de lois qui augmente, donc le nombre de figures de hors la loi augmente aussi. Depuis la guerre en Afghanistan, etc., en Europe, en tout cas aux États-Unis, on a beaucoup plus de lois qui atteignent à la liberté de mouvement, à la liberté de penser, de se rassembler, de s'associer. Il y a le manifestant qui est anticapitaliste, mais aussi la femme voilée qui va aller à l'école, ou d'autres exemples comme ça. Donc il y a plus de figures dans la loi à partir du moment où il y a plus de lois aussi, je pense.
Je pense que la législation s'adapte aux figures... aux figures militantes. Donc à partir du moment où il y a des gens qui arrivent à détourner certaines choses, la loi s'adapte aussi et donc décide de juger hors la loi et de mettre dans l'illégalité des gens qui au départ n'étaient pas hors la loi. Quand on pense aux arrestations préventives, je ne sais pas si on ne pourrait pas faire un travail juridique, parce que je pense que dans la Constitution, le droit de manifester est bien inscrit, et que les arrestations préventives, je ne suis pas sûr, faudrait vérifier, je ne suis pas sûr qu'elles soient légales. Et donc, il faudrait se poser la question s'il n'y a pas un travail à faire de suivi là-dessus.
Mais excusez-moi, quelqu'un veut intervenir du gym ?
Tous les deux, en fait, on dirait.
Bon, je pense,
Rix, vas-y. D'accord. Non, je pense que justement, le problème, c'est que, de nouveau, l'exécutif, donc la police, par exemple, dispose d'un certain nombre de justifications légales, de justificatifs légaux. Donc, par exemple, dans le cas des arrestations préventives, ils arguaient du fait qu'il y avait un trouble à l'ordre public, ou rébellion, ou outrage, ce genre d'accusations, en fait, qui donc sont légalement condamnées. Même si pas nécessairement de grosses condamnations, mais donc ils utilisent en fait toute une série d'arguments juridiques, légaux, pour en fait établir une sorte d'arbitraire sur qui peut manifester ou qui peut s'exprimer ou pas. Et même en fait, il faut penser aussi, parce qu'on parle de l'illégalité, mais il y a une illégalité de la part aussi du pouvoir, parce que on constate régulièrement, par exemple, des contournements de la loi, des procédures qui sont pas régulières, des choses dans le genre. Un exemple qui me vient en tête pour l'instant, c'est par exemple en France, l'affaire des écoutes du Monde, en fait, qui avait reçu en fait
l'affaire Wirth.
Voilà, c'est ça, en fait, où ils avaient reçu en fait un élément du dossier, et le gouvernement a déterminé en fait la source de cette fuite, et ils savaient en fait qu'ils ont probablement eu recours à des écoutes qui étaient illégales, en se cachant derrière toute une série d'artifices juridiques qui n'étaient absolument faux, comme le Canard enchaîné l'a montré, en fait, une série d'articles. Donc en fait, on est vraiment dans une situation où, donc, non seulement ils ont toute une batterie d'éléments légaux et judiciaires pour déjà avoir une certaine palette de possibilités pour limiter, on va dire, toute une série de droits fondamentaux. Mais en plus, si ça ne suffit pas, ils peuvent contourner eux-mêmes leurs propres lois en imaginant que ça ne sera pas poursuivi. Et on sait bien aussi que la justice ne fonctionne pas nécessairement de la même façon pour tout le monde dans ce qu'on appelle une démocratie.
Et donc la justice est hors la loi aussi, puisqu'elle contourne les lois, finalement, non ? C'est un peu un concours de hors la loi.
C'est une justice de classe.
Voilà.
Mais théoriquement, la justice est indépendante de l'exécutif. Bon. C'est encore un autre. Là, on est parti sur un autre débat aussi.
Eh bien, moi, je propose qu'on fasse déjà une petite pause musicale et que ce soit le Jim qui nous l'annonce. Qu'est-ce qu'on écoute ce soir ?
Je propose qu'on écoute le Game avec Allez les gars.
Eh bien, voilà. Allons-y alors. Retour dans le studio pour l'émission sur Panique consacrée au Jim ce soir, qui nous présente sa thématique du mois. Hors la loi, dans le début de l'émission, on a un peu abordé toutes sortes de sujets sur hors la loi. On va peut-être y revenir sur tout simplement qu'est-ce que c'est être hors la loi, qu'est-ce que ça veut dire et par rapport à quoi surtout ?
Oui, donc la question de base, en fait, c'est comment est-ce qu'on devient hors la loi ? Quand on est militant, bien entendu, hein, pas quand on est un petit délinquant ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas l'objet du débat. Donc, comment est-ce qu'on devient hors la loi, en fait ? Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'on marque une opposition au système dans lequel on vit. On va essayer de pas utiliser trop de grands termes, mais grosso modo, maintenant, on est dans un système capitaliste qui est présenté comme la seule alternative possible, en disant que c'est le seul modèle possible, et beaucoup de gens ne l'acceptent pas. Ça fait grosso modo une vingtaine d'années, et même une bonne trentaine d'années depuis les années 80, que le capitalisme est toujours mis en avant et que beaucoup de gens en subissent les conséquences de par leurs conditions de travail, parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, etc. Donc ça provoque des réactions plus dures de nombre de personnes, qui finalement s'opposent par les moyens de contestation très classiques, hein. Ils vont simplement manifester, ou ils vont être un peu plus souvent absents à leur travail. Il y a plein de phénomènes comme ça.
Mais est-ce que par exemple le type qui décide de vivre en marge de la société dans la rue, ou de pas avoir d'emploi ou pas avoir de logement, est-ce que c'est un hors la loi aussi puisqu'il s'oppose au système capitaliste ?
Ah, s'il n'a pas de carte d'identité, par exemple,
c'est un premier signe du hors-la-loi.
Mais ça, c'est simplement être victime de la répression. Il n'a pas fait un choix très... il a décidé de vivre en dehors du système. La question alors se pose si c'est possible ou pas possible. Donc, parce qu'il doit il doit consommer des biens pour sa propre subsistance, et donc il doit trouver des moyens de subsistance adéquats.
Mais donc c'est un hors-la-loi malgré lui.
Justement, Chris, parenthèse par rapport à ce sujet, en fait, il y a un film de Pierre Carle, justement, où ils suivent, entre autres, les gens qui cherchent à sortir du système et comment essayer, par exemple, de ne pas rentrer dans le système de consommation, donc avec des reprises individuelles et des choses dans le genre. C'est juste une parenthèse sur la...
C'est noté. Rien à foutre,
Volem, rien à foutre.
Volem, rien à foutre, Alpaïs. Voilà,
c'est ça. Voilà, c'est noté.
Voilà. Mais de la part de nombreux militants aussi, il y a une volonté de changer le système, parce qu'ils ne trouvent pas humain, pas solidaire, pas correct, et donc ils ne vont pas nécessairement se mettre en dehors du système. Ils vont avant toute chose chercher à le transformer, et ça se passe par exemple simplement dans les entreprises, avec des délégués syndicaux qui vont, et des travailleurs qui vont lutter pour de meilleures conditions de travail. Ça se passe avec des gens qui défendent les sans-papiers. Il y a plein d'autres exemples, chacun en aura en tête. Et la question va se poser dès ce moment-là, on va utiliser les moyens de lutte classiques, reconnus par la loi, si on veut, et pour certains groupes vont estimer que ça ne fonctionne pas, qu'ils sont dans un carcan trop sévère, parce qu'on leur interdit beaucoup de choses aussi. Donc,
ils vont réagir alors à ce moment-là.
Ils vont à ce moment-là, bien entendu, réagir. Ça n'est jamais d'eux que vient tout d'un coup une espèce de violence spontanée, comme ça, naturelle, comme si rien ne s'était produit auparavant. Oui, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors est-ce que c'est un choix conscient ? Est-ce qu'on a réfléchi ça pendant 2 ans en groupe de travail, en se disant maintenant, on va passer à des modes d'action plus durs, par exemple. Quelquefois oui, quelquefois non. Quelquefois, c'est une manif où on décide de ne plus se laisser faire. Ça arrive aussi, tout simplement. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on devient hors la loi, et petit à petit, on progresse, on fait son chemin. C'est pas nécessairement un encouragement, c'est une méthode de lutte, en fait. Et c'est une méthode de lutte qui n'est pas basée sur le critère de est-ce que je suis dans la loi ou est-ce que je suis hors la loi, mais comment arriver à mes fins. Je suis un groupe, je suis un parti, j'estime qu'il faut une société plus juste, comment est-ce que je vais faire ? Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne.
Mais justement, pour rebondir sur ton exemple des syndicalistes et des ouvriers, il y a un article que vous allez publier ce mois-ci qui s'appelle « Boss Napping, n'oubliez pas votre kit de survie lors d'une séquestration ». Donc, titre assez intéressant, interpellant en tout cas, où on explique qu'il y a c'était une pratique qui existait déjà depuis quelques années, mais qui est remise un petit peu au goût du jour. Donc c'est... la séquestration d'un patron.
Voilà, c'est ce qu'on appelle la séquestration. Moi, je dis qu'ils sont retenus pour heures supplémentaires, parce que ça fait partie du risque du métier. Mais effectivement, boss napping, c'est un peu en référence au kidnapping, mais en fait, c'est le fait d'interdire au directeur d'un site, quand il y a un problème, de quitter les locaux de la direction. Et donc, effectivement, c'était quelque chose de très courant auparavant, où on disait, non, vous sortez pas, on est en négociation, en discussion ici, vous menacez 50 personnes de licenciement, par exemple. Donc, on ne va pas vous laisser sortir d'ici sans avoir un autre accord. C'est une sorte de pression.
Et mais est-ce que c'est une action réfléchie ou est-ce que parfois c'est un pur, j'ai envie de dire, pétage de plomb de l'employé qui n'en peut plus de subir la pression?
C'est toujours un petit peu des deux. Donc, on ne décide pas une séquestration, ça se planifie peu en fait. Donc, généralement, on apprend une nouvelle d'un licenciement ou de la fermeture d'un site assez brutalement. Hein. Donc, actuellement, on ne prend pas les gens par la main, on leur dit « Écoute, ton travail, ça ne va pas bien et on va devoir te licencier et de faire ça avec 50, 100 travailleurs. » Non, c'est simplement une lettre du service des ressources humaines qui dit « Écoutez, monsieur, vous êtes licencié. » Donc, les gens se ont une réaction très spontanée. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelquefois, ils décident de séquestrer leur patron. Mais il y a aussi un effet de contagion, si on veut, pour la Belgique. On en a beaucoup parlé en France, un petit peu moins en Belgique, de la séquestration. Donc, les gens ont ça dans leur esprit comme une possibilité, un moyen de lutte, en fait. Donc, ils n'y songent pas, mais ça reste dans un coin de leur tête, en fait. Mmh. C'est un petit peu ça. Ils apprennent, les militants apprennent beaucoup des autres militants aussi. Et c'était une technique qui, en fait, n'était pas autorisée, mais on va dire qu'il y avait une certaine permission. Il n'y a jamais eu trop de représailles vis-à-vis des travailleurs qui faisaient ça par le passé, tout simplement aussi parce que le contexte économique était plus favorable. On était dans un capitalisme plus mou, peut-être, où il était plus facile de retrouver un travail. Maintenant, les gens qui font ce type d'actes sont désespérés, on le sait bien, et donc on met en place une répression beaucoup plus dure à leur égard, parce que eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas d'autre alternative que celle-là, par exemple.
Ce que je trouvais intéressant dans le texte, c'est que d'abord j'ai appris qu'on avait connu récemment plusieurs en Belgique, donc je ne suis pas une lectrice des grands médias, donc ça m'avait échappé, mais c'est aussi toutes les questions que finalement on séquestre un patron, mais c'est peut-être pas lui le responsable, parce qu'on est dans une économie globalisée et finalement, bon, s'il est un peu responsable, tout le monde est responsable, c'est pas ça la question, mais finalement, il ne fait qu'appliquer une décision qui vient d'en haut, et en général, les grands boss ne sont même pas sur le site, ils vivent ailleurs. Donc, est-ce que tu pourrais un peu réexpliquer un petit peu le processus où on explique que parfois il y a même des dirigeants qui débarquent, qui prennent leur petit avion personnel pour essayer de gérer une crise.
Oui, c'est effectivement, ce sont des personnes qui sont là pour diriger un site, une unité de production, un bâtiment administratif où il y a 150 employés, par exemple. Et ils appartiennent à un plus grand groupe, à une multinationale. Et ils ne sont responsables que de ce site. Et quelquefois, ils vont être licenciés en même temps que le reste du personnel quand il s'agit d'une fermeture complète. Et donc, on se dit, est-ce que ces gens-là sont victimes ou coupables, en fait? C'est toujours une question délicate. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui a accepté de faire subir à des travailleurs des conditions de travail qui ne sont pas toujours très sympathiques, qui est prêt à exécuter les ordres aussi sans broncher. Lui-même, s'il est licencié, va retrouver un emploi beaucoup plus facilement qu'un ouvrier non qualifié, ce genre de choses. Et donc, là, le patron du site local qui n'a effectivement pas de pouvoir décisionnel, s'il est séquestré, on va dire, va tout de même alerter la direction. Donc ça va un peu servir à quelque chose. Il va servir d'outil. C'est un peu, j'aime pas du tout dire ça vis-à-vis d'un être humain.
De relais, de courroie de transmission.
Voilà, de relais, de courroie de transmission. Et ça pourra montrer son efficacité comme ça. Maintenant, la séquestration n'est pas toujours efficace, hein, loin de là.
D'ailleurs, il y a la question des accords signés lors d'une séquestration, la valeur légale. Et aussi le fait qu'ils peuvent jouer sur le fait que la personne était stressée dans des conditions qui n'étaient pas normales pour pouvoir signer un accord. Et est-ce que c'est valable ou pas?
Tout à fait. Théoriquement, un accord signé sous la contrainte n'est pas valable. Maintenant, ça aura peut-être eu... On peut parler d'impact psychologique aussi. Donc le gestionnaire du site sera bien conscient que les travailleurs sont prêts à débrayer et à mener des actions très dures. Mais effectivement, un accord signé sous la contrainte n'est pas valable. On peut inverser la question aussi. Est-ce qu'un contrat de travail pour lequel on n'a pas beaucoup de choix est un accord, est finalement un accord signé sous la contrainte aussi? Et donc se repose la question de la législation et de la légitimité de la loi. Donc voilà, mais c'est vrai, pour y revenir, cet accord n'est pas valable. C'est pas pour ça qu'il ne sera pas appliqué. Mais il y a toujours une question de rapport de force en plus de la loi. Il n'y a pas que la justice qui fonctionne.
Moi, je voudrais juste revenir sur le débat, entre guillemets, du début, où on se demandait, mais est-ce qu'on a vraiment le choix parfois d'être hors la loi? Il y a le côté je décide de l'être, et donc le côté actif duquel tu parlais avec le manifestant qui décide de s'opposer. Et puis il y a la personne qui subit, là, dans le boss napping. Est-ce qu'il ne subit pas vraiment quand même? Et justement, quels sont les autres cas où on est hors la loi malgré nous? On a parlé des agriculteurs. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous connaissez ou d'autres sujets?
A priori, comme ça, on pourrait parler des lois antiterroristes, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment l'objet. On a consacré de nombreux articles à ça dans notre premier numéro qu'on peut retrouver sur, je le rappelle, www.legym.info, sur les lois antiterroristes, où en fait, certaines personnes qui avaient une activité politique assez... qui était convaincu, mais tout à fait innocent, la distribution de tracts, l'organisation de conférences, ce genre de choses, avec des mots d'ordre très durs, mais qui ne passaient jamais à l'acte, eh bien, ces personnes se sont retrouvées quelquefois sous le coup de la loi antiterroriste et risquaient jusqu'à 10 ans de prison.
Un autre exemple auquel on peut songer pour des gens qui se retrouvent hors la loi malgré eux, c'est le cas des sans-papiers, par exemple.
Voilà, justement, puisqu'on est en pleine activité.
Des gens qui simplement, le simple fait de vivre dans un pays où ils n'y sont pas autorisés, les met hors la loi, en fait, avec des conditions très très difficiles. Bon, il faut rappeler qu'il y a quand même pas mal de gens qui meurent simplement pour arriver ici, et que, bon, on assiste maintenant vraiment à des politiques de chasse aux étrangers, quoi.
Donc oui, ce sont les illégaux, justement, puisqu'on était tout à l'heure dans les références cinématographiques. Il y a le film Illégal qui passe en ce moment, et Hors la loi, justement, de Boucharev.
Tout à fait.
Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse cinématographique. Maintenant, on va peut-être revenir aussi sur le terme de légalité par rapport à légitimité. Sarah peut peut-être nous en parler.
Oui, c'est parce que c'est la question de la désobéissance civile. Enfin, dans le contexte de la thématique hors la loi, on parlait de illégalité choisie versus illégalité imposée, donc dans le cas des semenciers. Mais la désobéissance civile, donc, c'est la question de la légalité versus la légitimité. Donc la désobéissance civile, c'est quoi? C'est faire des actions directes et des actions de désobéissance, mais de manière ouverte. Donc ce n'est pas fait dans la clandestinité. Et donc les désobéissants montrent clairement qu'ils s'opposent à une loi qu'ils jugent illégitime. Exemple, les faucheurs d'OGM. En montrant clairement donc les fauchages d'OGM, la plupart, parce qu'il y a aussi des fauchages qui se font de manière un peu plus secrète, mais la plupart des faucheurs signent un document comme quoi, où ils donnent leur nom, leurs coordonnées, et ils s'inscrivent directement comme faucheurs volontaires d'OGM et sont prêts à assumer les risques. En justice, donc aller en justice pour destruction de biens, parce que quand on fauche les OGM, donc on est évidemment dans l'illégalité, on détruit une propriété privée et donc on est hors la loi. Et donc voilà, ça c'est la question. On connaît beaucoup de désobéissants.
Qui s'opposent à la pub, par exemple, et qui modifient les affiches ou qui...
Tout à fait. Là aussi, c'est de la destruction. Ce n'est pas autorisé. Je ne pense pas qu'ils signent, par contre, que c'est aussi organisé que les faucheurs d'OGM. Je pense qu'ils font plus ça la nuit.
Oui, c'est plus à l'improviste, je crois.
Oui, c'est plus du barbouillage. Mais bon, Rosa Parks, celle qui a osé s'asseoir sur les bancs, dans un bus réservé aux Blancs, donc était une désobéissante. Gandhi était un désobéissant, Martin Luther King. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a évidemment plein d'actions de désobéissance civile qui se sont montrées efficaces. Je pense que la lutte contre les OGM, la lutte des gens contre les politiques, contre la justice, contre Monsanto et consorts, a montré, donc cette lutte a montré quand même au grand public la nocivité des OGM, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que je crois qu'actuellement il y a un procès des faucheurs d'OGM en France, et ce n'est pas gagné pour eux, mais je pense que le succès médiatique a permis aussi qu'il y ait des gens derrière eux.
Malgré... excuse-moi.
Bah, sur la question des OGM, je veux dire, c'est quelque chose qui est encore en cours, puisque maintenant, il y a une volonté de la Commission de permettre à chaque pays de décider la mise sur le marché ou non de molécules modifiées. Ce qui, évidemment, déforce, entre guillemets, la position anti-OGM, puisqu'on sait qu'à partir d'un moment où ça commence à être répandu dans un certain nombre de pays, on va avoir la pression du « Ah, mais ils le font à côté, donc pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ?» C'est un argument qui est classique, on entend régulièrement « Mais pourquoi est-ce qu'on s'opposerait aux OGM ?» puisque les États-Unis le font depuis 15-20 ans, il n'y a jamais eu de problème, bref.
Et certains films, dont « Les prêcheurs de l'apocalypse », l'apocalypse, n'est-ce pas, dont l'auteur nous avait consacré une interview la semaine passée au Botanique, n'était pas tout à fait de cet avis.
Et convaincu que les OGM sauveront la faim dans le monde. Voilà. Et oui, il y en a.
Il y en a, bon. Bah.
La liberté d'expression est pour tous.
Bon, voilà. Eh bien, on va peut-être réenchaîner avec une petite musique, puisqu'on est justement dans le thème. On va écouter Kenny Arcana. La désobéissance civile ? Eh ben voilà, c'est parti. Voilà, on est de nouveau en studio avec le Jim qui nous parle de sa thématique du mois hors la loi. On a abordé pas mal de thématiques jusqu'ici et pas mal d'articles que vous avez écrits. On en était donc à la désobéissance civile et je propose qu'on revienne sur le fait, bon ça on en a déjà parlé, le fait qu'on pouvait être hors la loi de manière voulue et puis se retrouver dans l'illégalité sans l'avoir choisi. Et puis je propose que Léon nous parle des luttes sociales qui se retrouvent considérées comme illégales malgré elles.
Mais non, mais moi je me posais la question, parce que tout à l'heure on disait qu'il y avait des gens qui étaient volontairement hors la loi, en sachant en plein état de cause quelle est la juridiction en ANI. Donc comment lutter ? Ben, on va être hors la loi, c'est une prise de position. Mais il y a des gens qui ne désirent pas spécialement voir leur mouvement social criminalisé ou vu hors la loi. Je pense en particulier aux sans-papiers qui, la moindre arrestation, etc., ils sont... emprisonnés, quoi. Donc, ils n'ont pas trop de soutien, ils n'ont pas, à la limite, sont renvoyés chez eux. Donc, il n'y a pas, après, le retour chez soi. Allez, on a passé 48 heures en prison, on est hors la loi, youpi. Et donc, comment est-ce que, pour ces mouvements-là, comment ne pas tomber dans l'illégalité, tout en sachant qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas y échapper? Donc, comment sauver un mouvement aussi, parfois, comme ça, quoi?
C'est pas vraiment une question de choix, en fait. La question sur est-ce que je vais rester dans la légalité ou tomber dans l'illégalité, on peut la réfléchir, ça c'est sûr. Et donc on peut choisir à un moment de dire bon ben j'abandonne ma lutte parce que je vais mettre dans la légalité et que je n'aurai plus de moyens de pression efficaces, ou je la continue en me mettant dans l'illégalité. C'est aussi ça qui compte. C'est, eh bien, prenons par exemple on peut parler des sans-papiers. Depuis la mort de Semira Adamou en 1999, on a énormément parlé des sans-papiers en Belgique, pour tout compte fait très peu d'avancées. Et à chaque nouvel accord de régularisation, il y en a de moins en moins. Et chaque nouvel accord sur la régularisation des sans-papiers était de moins en moins, si on veut, le fruit d'un combat militant et des sans-papiers, mais beaucoup plus, de plus en plus de juristes, de partis politiques, etc., pour obtenir très peu de résultats. Qu'est-ce que deviennent alors tous ces sans-papiers qui finalement ne sont pas régularisés ou n'obtiennent pas de permis de séjour pour une durée plus longue ou simplement de permis de travail, etc. Ils n'ont pas vraiment le choix de l'illégalité ou de la légalité dans leur combat militant. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir rester en Belgique. Même pas, en fait. Ils sont surtout désireux de retourner dans leur pays. C'est le cas de la plupart des sans-papiers, mais dans un pays stable, où il y a moyen de vivre correctement. Ça implique, bien entendu, des moyens de subsistance économique, des droits fondamentaux qui sont garantis, etc. Bon, ça n'est pas possible. Ils viennent en Belgique, ils veulent y rester quelque temps. qu'est-ce qu'ils vont faire ? Soit ils s'organisent en mouvement, soit ils restent dans la clandestinité, dans leur situation de sans-papiers, qui ne changera pas grand-chose. Ils auront peut-être un petit revenu au noir, etc. Mais ils sont obligés, à un moment donné, de se dire, bon ben, quel moyen d'action va-t-on mettre en œuvre ? Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup d'alternatives pour ces personnes pour obtenir leur régularisation. Je retiens néanmoins que le plus grand... La plus forte régularisation, c'est celle de 2000-2001, où on a combiné là, des moyens de lutte légaux et illégaux, on va dire. C'est-à-dire que les moyens de lutte légaux, ça a été des manifestations. Les moyens de lutte illégaux, ça a été de forcer les grilles d'un centre fermé pour que les sans-papiers puissent s'évader. Lié à ça, il y avait aussi un choc émotionnel, comme on dit dans les grands médias. Donc, lié à la mort de Semir Adamou, il y avait aussi un contexte politique lié au fait que le parti écolo était dans l'opposition et relayait très largement les demandes de régularisation. Donc tout ça, c'est chaque fois des éléments qui font partie d'un contexte global et qui doivent être réfléchis. Mais au final, le sans-papier qui n'a pas sa régularisation doit continuer à se battre pour l'obtenir. Et il va essayer tous les moyens et explorer petit à petit et voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc c'est pas vraiment une question de choix, c'est une question d'obtenir ce qu'on veut parce qu'on a le droit de l'obtenir. C'est un peu... On peut faire aussi des parallèles peut-être plus faciles avec la réforme des retraites en France. Donc ça fait maintenant, on en est à la 6e manifestation. Aujourd'hui, il y avait 3,5 millions de manifestants dans la rue, selon les syndicats, vu qu'il y a une grande bagarre sur les chiffres. Mais soit, c'est en tout cas un grand succès de foule. Mais il y a aussi
c'est assez violent aussi.
Voilà, il y a aussi des grèves qui commencent, donc... D'un côté, c'est violent, donc la police qui a été habituée à pouvoir faire un peu ce qu'elle voulait en France sous le régime Sarkozy n'hésite pas à tirer au flashball sur des gamins de 15 ans et de tirer en tir horizontal, on va dire, pour que ça leur arrive en plein visage, ce genre de choses.
Ceci étant dit, les gamins de 15 ans n'hésitent parfois pas à brûler des voitures et ne savent même pas pourquoi ils le font.
Oui, tout à
fait. Il faut le dire aussi.
Ça fait partie d'un mouvement de masse, c'est clair. Donc il y a toujours ce genre de phénomène. Mais il y a aussi, par exemple, il y a un élément qui joue beaucoup pour l'instant aussi économiquement, c'est le blocus des raffineries de pétrole. Le gouvernement s'en est bien rendu compte. Donc, il n'y a plus d'approvisionnement en pétrole. Certaines pompes à essence sont déjà vides parce qu'on crée aussi un mouvement de panique sciemment pour que les gens aillent faire le plein et n'aient plus d'essence 3 jours plus tard. Les aéroports sont menacés de fermeture. Il y a des piquets de grève devant les raffineries. Que fait le gouvernement, la présidence, l'omniprésidence Sarkozy et son gouvernement ? Ils font rédiger des arrêtés pour qu'on fasse lever le blocus par tous les moyens, en fait. C'est-à-dire qu'on peut envoyer la police, mais même l'armée si nécessaire, en disant que, eh bien non, le droit de grève, c'est moins important que l'approvisionnement en pétrole en France. Et donc, là aussi, il y a une criminalisation. Et que font les grévistes des raffineries ? Soit ils résistent, soit ils cèdent. Et à ce moment-là, et pourtant ils mènent un combat juste, la réforme des retraites est profondément... c'est quelque chose de profondément scandaleux en France. Ça risque de nous toucher tout bientôt aussi. Leur combat est juste, donc s'ils n'ont pas envie de céder, ils vont être dans l'illégalité.
Je voudrais bien revenir sur deux ou trois choses qui ont été dites ces dernières minutes. Par rapport aux sans-papiers, je pense qu'il y a eu une action assez forte... Mais peut-être que je me trompe, donc n'hésitez pas à me corriger. Des sans-papiers donc qui ont arrêté de travailler et massivement, et là qui ont montré de manière assez forte et très visible que ils étaient un facteur important dans l'économie d'un pays parce qu'ils travaillaient. Et donc si un nombre incroyable de sans-papiers arrêtaient de travailler. Il y a beaucoup de patrons qui se sont retrouvés un petit peu je suis en train de faire d'engager un travailleur sans-papiers, donc je suis dans l'illégalité, mais en plus là il me pose problème. Est-ce que je me trompe?
Non, en fait, on a même vu, enfin en France en tout cas, il y avait une série de patrons de petites entreprises qui soutenaient la légalisation, la régularisation en tout cas de leurs employés forcément.
Donc c'est une action que je pense qui pourrait être aussi répétée, en tout cas imitée en Belgique, pour, pour essayer de faire avancer le mouvement des sans-papiers.
Tout à fait. Et ce qui s'est passé, en fait, avec ces sans-papiers, et là, on va pouvoir revenir sur la question d'un article apparaître sur les partis politiques et la révolution. Ce qui s'est passé avec ces sans-papiers en France aussi, c'est qu'ils ont bénéficié d'un certain encadrement syndical pour les soutenir dans leur lutte, d'une forte médiatisation aussi. Donc, à nouveau, je reviens à la question du contexte. Hein. Donc, il y a plein d'éléments dont on doit tenir compte quand on fait une action qu'on ne connaît pas nécessairement. Mais donc, ils ont pu bénéficier d'une grande médiatisation de leur lutte, d'un soutien syndical, de petits patrons, en fait, qui représentent finalement l'électorat de Sarkozy, qui disent « mais oui, il faut régulariser ces gens, sinon mon entreprise, elle ne tourne plus, quoi. Donc il faut absolument trouver une solution ». Maintenant, tous n'ont pas été régularisés. Il y a plein d'autres sans-papiers qui n'ont pas participé au mouvement, etc. Mais c'est effectivement une lutte qui a été couronnée de succès. Et donc, c'est ça qui se passe. C'est ça qu'il est tenté de montrer aussi dans cet article sur les partis politiques et la révolution. C'est voir un petit peu, bon, les partis politiques révolutionnaires en Belgique, qu'est-ce qu'ils font finalement pour arriver à leur fin, à la révolution. Donc, la révolution, c'est par définition illégal. On veut changer tout le système, donc aussi tout le système judiciaire, policier, administratif, politique, économique, etc. Ça n'est pas vraiment légal. Et donc, ce qu'il apparaît dans les interviews qui sont faites là, c'est qu'à chaque fois, ils essayent d'organiser les gens, de leur donner des conseils, quelquefois de leur imposer un peu des directives. Ça, c'est toujours un peu variable. Mais donc ça, c'est un élément qui joue beaucoup aussi. C'est qu'un sans-papier dans un mouvement de masse sans réelle organisation aura beaucoup moins de chance. Je ne dis pas qu'il ne va pas réussir, mais il aura beaucoup moins de chance d'arriver à ses fins qu'en étant plus organisé dans un combat. Et ça, c'est le but des partis politiques révolutionnaires, bien souvent.
Et justement, qui est-ce que vous avez interviewé ? Tu dis que vous avez interviewé des gens ou des partis pour écrire cet article ?
Alors, il y a une belle galaxie en Belgique hein, de partis révolutionnaires.
Il y a de quoi faire.
Voilà, donc au stade où on en est actuellement, on a interviewé un représentant du PTB, le Parti du Travail de Belgique, hein, qui est le parti de gauche radicale le plus fort en termes de militants et qui bénéficie petit à petit d'une certaine présence médiatique. Nous avons également fait l'interview d'un représentant de la Ligue communiste révolutionnaire. C'est un parti plus ancien, axé quelquefois sur d'autres thèmes plus à part. Le PTB, on pourrait le qualifier de très orienté vers le monde du travail. Ça n'est pas le cas, hein, je caricature énormément. La LCR va être orientée vers le monde du travail, mais aura aussi plus de volonté de travailler sur les... comment pourrait-on appeler ça ? Les minorités opprimées. C'est une très très mauvaise expression, mais puisqu'on va parler de féminisme, et donc c'est quand même la moitié de la population, donc c'est pas du tout une minorité. Mais on va parler de racisme aussi, ce genre de choses. Nous avons également interviewé un autre parti politique qui, lui, ne se présente pas aux élections par choix, justement, parce qu'il y a différentes tactiques, stratégies, et qu'on voulait un petit peu illustrer ça, qui s'appelle La Lutte, qui est une organisation proche de Lutte ouvrière France, en fait, mais qui n'est pas directement liée à Lutte ouvrière. Et enfin, si tout va bien et si le temps nous le permet, il y aura une interview d'un représentant du Parti socialiste de lutte. Et le dernier, et ça c'est un peu plus étrange, c'est le Parti socialiste, en fait, qui n'est pas révolutionnaire, mais dont certains textes laisse à penser certains très très vieux textes du 19e
oui,
siècle.
Oui, c'est des vieux.
Ça s'appelle la charte de Carnion, qui dit notamment qu'on doit réaliser la société sans classe, donc sans classe sociale, par tous les moyens. Ça veut dire que ça leur donne une possibilité, si on veut, de révolution à une époque où, c'est, où la stratégie militante dans les partis de gauche n'était pas réellement définie. Mais donc il s'agit bien de partis, hein, puisqu'on peut parler aussi de groupes révolutionnaires comme les anarchistes, par exemple, qui ne vont pas se retrouver dans cette article.
Je pose une question. Quel est l'intérêt pour un parti politique de ne pas aller aux élections ? Donc tu parles du parti Lutte, qui s'appelle
La Lutte.
La
oui.
Lutte. Il pourrait être une association, un mouvement.
C'est pas un parti, c'est une organisation politique. Quoi.
C'est une organisation politique, ce n'est pas... Parce que l'idée d'un parti, c'est qu'il va aux élections.
Moi, je propose qu'on s'écoute encore une petite chanson et qu'on laisse le temps au Jim de réfléchir
répondre.
Et puis de nous répondre. Voilà, alors on va s'écouter au cas où il en aurait eu besoin, hein, sans doute pas, mais voilà, comme ça. Eh bien, on va s'écouter Scapé, notre groupe préféré avec le Jim, La Colmena. C'est la dernière partie de cette émission avec le Jim sur Panique. Alors, Sarah posait une question à Gérard. Eh bien, voilà, suite.
Ok, il nous reste pas énormément de temps, mais donc très schématiquement, effectivement, des partis font le choix de se présenter aux élections. D'autres sont des partis dans le sens où ils s'entendent comme c'est nous qui allons constituer, mais pas à 10, hein, leur but est d'être, des milliers, des dizaines de milliers, c'est nous qui allons constituer un peu le noyau dur de la révolution et ne se présentent par exemple pas aux élections. Ça, à chaque fois, c'est un choix. C'est à quoi servent les élections ? Pour certains, ça sert de campagne, c'est une occasion de se mettre en avant, d'avoir éventuellement un élu qui peut servir de porte-voix des luttes. C'est une expression qui est souvent utilisée. C'est vraiment, nous, le Parlement importe peu, ce qui compte, c'est de mettre en avant nos luttes. D'autres disent au contraire, eh bien non, nous on va pas se présenter aux élections parce que c'est cautionner le système dans lequel on est et ça donnera un signal inverse. Grosso modo, ça sont un peu les deux tendances. Et donc à nouveau, on se retrouve avec quelque chose qui est au-dessus de la légalité même, pas au-dessus de la légalité, mais on choisit en fonction du contexte, on fait une analyse et on dit voilà, ça c'est ce qui va nous convenir le mieux comme moyen de lutte, c'est ce qui nous semble le plus pertinent, et c'est un peu comme ça que ça marche. Il y en a plein qui vont se tromper, il y en a qu'un seul qui va réussir, ou ça va être une constellation où ils vont tous réussir ensemble, on verra bien. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ces partis politiques conçoivent les choses.
Merci. Tu veux revenir sur notre petit débat
interne pendant la chanson.
Sur la question de la violence.
Alors voilà, sur la question de la violence. Tout à l'heure, il était question des policiers qui tiraient sur les manifestants rapport aux grèves. Mmh. Et j'ai dit que c'était des gamins de 15 ans qui brûlaient des voitures. Je tiens à dire que je ne cautionne absolument pas la violence, ni d'un côté ni de l'autre. Et je ne dis pas du tout que c'est mérité, bien évidemment. Mais si quelqu'un veut encore intervenir là-dessus.
Donc il ne fallait peut-être pas faire.
Il n'y a pas d'amalgame, évidemment.
Une comparaison déplacée, oui, c'est sûr. C'est peut-être pas l'idée.
On est d'accord et je m'excuse pour ceux que j'aurais pu blesser par cette remarque. Enfin, ça, je vous le dirai une autre fois, mais tout se passe dans la bonne humeur, c'est sûr.
Il y a toujours une différence entre un gamin de 15 ans qui vient certainement pas de Neuilly et qui a subi une violence sociale depuis des années, qui n'a pas bénéficié d'une éducation correcte ni de revenus corrects, qui n'a pas vécu dans une famille où il y a papa, maman, une fille et un garçon comme enfant, etc., où tout n'est pas idéal par rapport à un policier qui, lui, a une formation, est payé pour légalement ne pas flinguer des gamins au flashball. Hein. C'est la loi qui le dit, elle n'est pas respectée, c'est tout. Et
donc les policiers sont hors la loi dans cette situation-là, on est bien d'accord.
Oui, mais c'est pas le fait
Si on donne des flashballs, c'est pour qu'ils les utilisent.
Oui, c'est quand même contre la loi, Gérard vient de le dire.
C'est un débat qui a eu lieu au niveau du taser aussi. Mm-hmm. Parce que oui, c'était présenté, ce gendarme était présenté comme des armes non létales et en fait on se rend compte que maintenant ils changent un petit peu leur fusil d'épaule et ils parlent de létalité réduite. Parce que ce sont des armes qui restent quand même très très dangereuses.
Bon, en tout cas, la violence, voilà. On est contre dans tous les cas et dans toutes les situations. Maintenant, pour en revenir au sujet de ce soir, qui était l'heure la loi, on va peut-être conclure. Je crois que en général, on pourrait dire, on en retirerait que il y a deux sortes de hors la loi. Dans les deux cas, c'est par rapport au système en place, donc par rapport au capitalisme. D'un côté, des gens qui veulent sortir du système et qui se rebellent, et puis de l'autre côté, des gens qui sont exclus, qui voudraient justement l'intégrer. C'est le cas des sans-papiers. Et voilà, ça c'était pour les hors-la-loi. Je vous propose de retrouver les articles du Gym sur leur site www.legym.info. Tous ne sont pas encore publiés, mais ça va venir au fur et à mesure. Voilà, et par rapport au programme du mois prochain ?
Le thème du mois prochain ?
Oui, ou l'agenda, qu'est-ce que vous avez prévu ? Vous avez quelque chose le 24, je crois.
Oui, et je crois que Panique a aussi quelque chose le 24 au même endroit, à la même heure.
Voilà, donc, ça tombe bien, c'est merveilleux.
Voilà. C'est un débat dans le cadre du Festival des Libertés sur les médias alternatifs, en fait, où nous sommes invités à dire un peu comment on fonctionne et pourquoi on fonctionne, comment ça marche, etc. Et il n'y aura pas que Panique et le Gym, il y aura aussi le journal papier à voix haute, Radio Campus, qui a quand même un petit côté alternatif. Il y aura également le collectif Le Ressort. Et c'est tout.
je ne sais plus.
C'est déjà pas mal.
Et Indie Media Bruxelles, ex-CEMAP, bien entendu,
oui, voilà.
Qui remplit un rôle d'information également très très important, et de contre-information aussi. Voilà, donc ça c'est le dimanche 24 au Théâtre National à partir de 17h. C'est bien entendu gratuit, et voilà.
Et bien voilà, tout ça vos agendas alors, et le thème du mois prochain c'est...
Culture.
Engagée, alternative.
Voilà. Donc ce sera divers, avec le Jim le mois prochain sur Radio Panique 105.4. Merci beaucoup. Merci à Damien à la technique. Et voilà, une dernière chanson pour conclure. Révolution de P4 à l'attaque. Bonne soirée à tous. Merci Sarah, merci Léon. Au revoir, bonne soirée à tous.